journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, retour sur les violences qui, hier, devant l'Assemblée nationale à Paris, ont conduit à la mutilation d'un manifestant. Commentaire du ministre de l'Intérieur et contextualisation du sociologue Fabrice Dume. À la faveur d'une visite de la ministre des Armées au Levant, nous nous rendrons en Syrie, à quelques kilomètres d'Al-Baghouz, où sont encerclés des centaines de djihadistes. Offensive de la coalition arabo-kurde en cours. Reportage de Franck Cognard. Nous serons également en ligne de Madrid avec Mathieu de Taillac, analyse politique de la manifestation anti-gouvernementale à laquelle participent la droite, l'extrême droite et Ciudadanos. À la fin de cette édition, la face cachée du Globe, signée Nabil Lamel, avec entre autres un détour par l'Ukraine où se dérouleront le 31 mars prochain des élections présidentielles. La question des armes à la disposition des forces de l'ordre se pose et se repose au fil des mobilisations. Hier, lors de heures devant l'Assemblée nationale dans le cadre d'une manifestation de gilets jaunes, un homme a été mutilé, une main arrachée par une grenade GLI F4. La France est le seul pays d'Europe à l'utiliser. Fin 2014, après la mort de Rémi Fraisse à Sivens, un rapport du ministère de l'Intérieur préconisait de l'interdire lors d'opérations du maintien de l'ordre. La question n'est pas d'actualité pour le ministre de l'Intérieur. Bonjour Lucas Scaltriti.
Bonjour.
Lucas, même si Christophe Castaner concédait il y a quelques minutes sur France Inter qu'il faudra revoir la doctrine du maintien de l'ordre.
Oui, mais Christophe Castaner estime que nous sommes, je cite, en temps de crise. Ce n'est pas le moment de tout bouleverser, selon lui, même s'il y a déjà eu quelques changements.
Depuis quelques années, l'ultra-violence rentre dans toutes les manifestations. On l'a vu dès la loi El Khomri. Vous vous souvenez de cette scène de ce CRS immolé d'essence et qu'on a voulu tuer. Et puis on l'a vu le 1er mai de l'année dernière avec 1000 Black Blocs qui ravagent une rue. Et donc cette violence-là, on l'a vu dans la ZAD, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, cette violence-là nous amène à reconsidérer notre doctrine d'emploi. D'ailleurs, nous l'avons fait après le 1er décembre. À la préfecture de police sur Paris, on était dans une immobilisation des manifestants. C'est-à-dire qu'on les tient à distance, ils ne bougent pas. Et on les laisse détruire. On a changé la doctrine après ce qui s'est passé sur l'Arc de Triomphe avec des interventions directes. Mais ça implique effectivement plus de contacts, plus de corps à corps, plus de brutalité et des blessés. Mais je vous le dis, qu'un blessé soit manifestant, gilet jaune ou manifestant, qu'il soit policier, qu'il soit journaliste, c'est toujours un drame.
Le ministre de l'Intérieur annonce également que 133 plaintes ont été déposées à l'IGPN, la police des polices. Il précise que pour la main arrachée d'hier, il n'y en a pas encore eu.
Alors Lucas, la question n'est-elle pas celle de la violence sociale ?
Oui, la violence sociale comme source de la violence physique, c'est une des justifications avancées par certains universitaires notamment. Et se focaliser sur ce qui est parfois qualifié de guérilla urbaine, ce serait aussi se détourner du problème. Écoutez Fabrice Dume, sociologue qui a signé une tribune dans le journal Libération le mois dernier contre les violences policières.
Je pense que la question de la violence, c'est d'abord la violence de ce gouvernement, c'est d'abord la violence du pouvoir qui est imposée. Alors, on peut évidemment discuter, s'interroger sur les manières de réagir les plus pertinentes, y compris pour faire évoluer la situation. On voit bien qu'il y a une possibilité d'enfermement dans une logique de la violence, mais ce qui me semble vraiment problématique, c'est combien la stratégie policière vise en fait à dépolitiser des questions qui sont absolument fondamentales, qui sont posées notamment par le mouvement des Gilets jaunes.
Les violences physiques sont pour le sociologue une des manières de lire la réalité, mais elles ne doivent pas être mises plus en avant que ce qu'il considère comme le mépris social des politiques.
Merci à vous Lucas Scaltriti. S'agissant cette fois de l'une des revendications phares de ce mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne, relevons cette déclaration du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand se dit opposé à l'organisation d'un référendum en même temps que les élections européennes le 26 mai prochain. La France et son engagement militaire au Levant avec la visite de la ministre des Armées sur le front en territoire syrien, sur la rive est de l'Euphrate, à quelques kilomètres de la localité de Baghouz où se déroule l'offensive dite finale contre des centaines de djihadistes encerclés par une alliance arabo-kurde, les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. C'est d'ailleurs à bord d'un appareil militaire américain que Florence Parly a rejoint le poste français. C'est un reportage de Franck Cognard.
Pour atteindre la légère hauteur où sont installés les canons français, il n'y a pas de route praticable. Les canons César sont orientés vers l'ouest, où derrière une colline, à 3 km de là, Daesh défend son dernier bout de terrain. La ministre des Armées arrive sur place. Premier briefing avec le colonel Le Grier, le chef de la task force Wagram, le détachement d'artillerie français.
A savoir qu'il reste un réduit Daesh autour du village de Baghouz. C'est quelques dizaines de kilomètres carrés. Vraisemblablement, une fin des combats attendue semaine à venir ou les 15 jours à venir.
L'officier utilise une reproduction sommaire du terrain pour ses explications, en sable et en cailloux. Et dessus figurent petits soldats et canons en plastique pour marquer les positions de chacun. Quelques minutes plus tard, devant trois canons et 180 obus alignés, Florence Parly assène sa conviction aux artilleurs français.
La fin est proche. Les terroristes sont sans chef, sans communication, dans le désordre de la déroute. Achevez ce combat.
C'est peu après cette visite que les forces démocratiques syriennes ont annoncé la reprise de l'offensive. Les djihadistes sont bloqués donc près de ce village de Baghouz. Ils sont entourés par les FDS, par l'armée syrienne également, par l'armée irakienne et par les soldats américains et français qui pilonnent leur position.
Et l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état ce matin d'intenses combats à Baghouz, des explosions de mines ainsi que des bombardements aériens et d'artillerie. Le gouvernement socialiste espagnol fait face non pas à une coalition, mais à un mécontentement partagé par la droite, l'extrême droite et les centristes de Ciudadanos qui accusent le Premier ministre Pedro Sánchez de céder aux indépendantistes catalans. En un mot, il s'agissait de la mise en place d'une instance de coordination entre Madrid et Barcelone, dialogue rompu avant-hier. Nous sommes comme convenu en ligne avec vous, Mathieu Taillac. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes Mathieu en direct de la manifestation programmée ce dimanche à Madrid par les adversaires des socialistes au pouvoir. Le gouvernement a véritablement, Mathieu, droit à un front commun.
Ah oui, c'est une manifestation qui est très politique effectivement, à la fois par les personnes ou les partis qui convoquent cette manifestation. Il suffit aussi de voir le slogan « Pour l'unité de l'Espagne, élection maintenant ». Et puis, en parlant avec les manifestants, on se rend bien compte que le refus du dialogue avec les indépendantistes n'est que l'un des motifs. Et peu importe que le gouvernement socialiste, comme vous l'avez dit, ait fait marche arrière sur cette question, ces manifestants ne font pas confiance à un exécutif qui dépend des votes des députés indépendantistes pour se maintenir au pouvoir. Et puis, ils sont nombreux aussi à dire que ce dialogue avorté n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Ils n'aiment pas la politique de ce gouvernement en général. Certains sont contre les politiques féministes, d'autres aimeraient bien que la corrida soit protégée au lieu d'être critiquée par la gauche. Ce ne sont que quelques-unes des critiques entendues ici sur la Plaza Colonne, sur la place de Christophe Colomb, au centre-ville de Madrid. Tous, en fait, reprochaient d'être arrivé au pouvoir par une motion de censure, on s'en souvient, contre Mariano Rajoy, et de ne pas honorer son engagement de convoquer des élections générales au plus vite. Et tout cela, au-delà de la situation en Catalogne, la revendication qui soude ce centre, cette droite et cette extrême droite, la revendication d'élections, de fait, il est possible que leurs vœux soient exaucés, alors non pas que le gouvernement ait envie de leur faire plaisir, mais mercredi prochain, le budget pourrait être refusé par le Parlement, et dans ces conditions, il pourrait être très difficile pour Pedro Sánchez et son équipe de se maintenir au pouvoir.
Merci à vous Mathieu Taillac, on a bien compris l'essentiel de votre texte avec cette échéance du budget qui arrive la semaine prochaine, la ligne n'était pas très bonne. Merci à vous Mathieu Taillac en direct de Madrid. En Haïti, la publication d'un rapport qui pointe la gestion affligeante du pouvoir en matière de dépenses publiques déclenche des manifestations depuis trois jours. Les Haïtiens demandent le départ du président Jovenel Moïse, soupçonné également d'avoir détourné des fonds publics. Aux États-Unis, la prochaine présidentielle est dans un an et demi, mais la course à l'investiture démocrate pour désigner celui ou celle qui affrontera Donald Trump est déjà lancée. Hier, c'est la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, qui s'est officiellement déclarée candidate. Elle a 69 ans et va faire campagne sur le droit des travailleurs et la justice salariale. La sénatrice Warren est aussi l'une des cibles favorites des attaques de Trump en officialisant sa candidature. Elle rejoint une liste déjà longue de postulants. À Washington, Grégory Phillips.
Ils sont déjà une dizaine à s'être officiellement portés candidats à cette investiture démocrate pour 2020. Et parmi les candidats considérés comme sérieux, il faut surveiller de près Elizabeth Warren donc, mais aussi la sénatrice de Californie, Kamala Harris, qui fait un bon début de campagne. Le mois dernier, son premier meeting à Oakland a eu un écho national, également candidate la sénatrice de l'État de New York, Kirsten Gillibrand, ainsi que son collègue et voisin du New Jersey, Cory Booker. Et puis il y a celles et ceux qui songent à se présenter, mais n'ont pas encore confirmé. Parmi les plus sérieux, l'ancien vice-président Joe Biden, mais son âge, 78 ans en 2020, pourrait être un désavantage. Idem pour le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, 77 ans aujourd'hui, mais bien placé dans les tout premiers sondages. Le jeune Texan Beto O'Rourke, remarqué lors des élections de mi-mandat, dit qu'il prendra sa décision décision avant la fin du mois. La presse américaine croit savoir qu'Hillary Clinton serait aussi tentée par une candidature malgré l'échec de 2016. Enfin, du côté des indépendants, deux poids lourds semblent vouloir se présenter. L'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, et l'ex-patron de Starbucks, Howard Schultz. À plus d'un an et demi de la présidentielle, il y a donc énormément de monde sur la ligne de départ et les petits donateurs du Parti démocrate ont déjà commencé à verser leurs contributions. Ceux qui pour l'instant ont collecté le plus de fonds sont Bernie Sanders et Beto O'Rourke avant même d'avoir officialisé leur candidature.
Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Cela n'a aucun sens de laisser des responsables politiques proches du pouvoir vénézuélien bénéficier du droit d'entrée chez nous pour faire leurs courses alors que d'autres Vénézuéliens migrent par nécessité. Les services d'immigration colombiens expliquent ainsi leur décision de supprimer les plus de 300 visas quotidiens attribués à des partisans du président Maduro. Guillaume Soro vient de démissionner de son poste de président de l'Assemblée ivoirienne et refuse d'adhérer au nouveau parti politique créé par le chef de l'État Alassane Ouattara. On ignore si ce geste est le prélude à une candidature à l'élection présidentielle prévue l'an prochain en Côte d'Ivoire. Elle a retiré sa candidature au bout d'une journée. Une princesse thaïlandaise, sœur du roi, avait postulé pour le poste de Premier ministre sous la bannière d'un parti proche de Thaksin Shinawatra, la bête noire des ultra-monarchistes. Le palais royal y a mis son veto et certains Thaïlandais demandent à la princesse de faire à présent des excuses. 44 candidats pour la présidentielle du 31 mars en Ukraine. C'est un record pour un scrutin qui s'annonce imprévisible et pour lequel un comédien est actuellement en tête des sondages. C'est une correspondance de Sébastien Gobert à Kiev.
C'est l'élection de tous les records. 90 candidatures déposées, 44 retenues, dont 4 femmes, pour un scrutin que l'on dénonce déjà comme le plus cher, le plus populiste et le plus frauduleux de l'histoire de l'Ukraine indépendante. Le nombre de candidats peut surprendre. Dans un pays en guerre et encore sous le coup d'une grave crise économique, il s'explique par le fait que la présidence de Petro Porochenko est très contestée, notamment à cause de sa concentration du pouvoir et de l'entretien de circuits de corruption. Parmi ses principaux concurrents, on trouve l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, active dans la vie politique depuis déjà 20 ans, et Volodymyr Zelensky, un acteur sans expérience politique. Celui-ci se présente comme le candidat anti-système, et il est très populaire tout en étant lié à l'un des plus gros oligarques du pays. Parmi les 41 autres candidats, on trouve des criminels tentant de bénéficier d'une immunité électorale, des pro-russes divisés et des candidats dits techniques chargés de créer des diversions. On compte ainsi deux candidats sous le nom de Tymoshenko, une tactique classique pour induire les électeurs en erreur une fois qu'ils se trouvent face au bulletin de vote. Le corps électoral est d'ailleurs une autre grande inconnue du scrutin. Compte tenu de l'émigration de masse et des déplacements causés par la guerre, on ne sait pas encore combien d'électeurs se rendront aux urnes. Et s'ils s'y rendent, quel sera leur choix? Plus de 50% d'entre eux sont encore indécis à 6 semaines du vote.
Nouvel obstacle judiciaire pour Mumia Abou-Jamel, emblème de la lutte contre la peine de mort et les discriminations raciales aux États-Unis. Ce prisonnier afro-américain, incarcéré depuis 37 ans, dont 30 ans dans les couloirs de la mort à Philadelphie, avait été autorisé fin décembre, pour la première fois depuis 1982, à plaider devant un nouveau tribunal. Mais il y a quelques jours, le procureur de la capitale de Pennsylvanie a contesté cette décision judiciaire et a fait appel aussitôt. Des étudiants de la fameuse université Yale ont protesté, comme le raconte Anadine Epstein, Jackie Horto, du comité de soutien à Mumia Abou-Jamel.
Il devait y avoir un événement considérable dans cette université, puisque c'était le procureur lui-même qui vient de rendre cette mauvaise décision pour Mumia, de contester la décision qui lui permettait d'avoir un nouveau procès. Il devait être l'invité d'honneur d'un grand forum qui devait se tenir dans cette université. Eh bien, les étudiants ont convaincu les organisateurs de cette manifestation et la direction de l'université a décidé de revenir sur l'invitation faite au procureur et de remplacer le procureur Larry Krasner par Mumia Abou-Jamel lui-même. Alors Mumia ne pourra pas être présent, ça devrait se dérouler dans quelques jours. Donc Larry Krasner ne sera pas invité. Par contre, Mumia Abou-Jamel, il est en prison, il n'aura pas l'autorisation de venir, mais plus vraisemblablement un enregistrement audio permettra à Mumia de prononcer un discours en direction des étudiants. Comme l'a dit le juge qui vient de donner la possibilité à Mumia d'aller en direction d'un nouveau procès, a dit lui-même dans ses conclusions, c'est que la justice de Pennsylvanie doit en quelque sorte se refaire une autre image. Elle est trop concernée, elle a agi trop mal en toute direction à l'encontre des justiciables de Pennsylvanie et en particulier de la minorité noire qui, je rappelle, est la plus importante minorité noire des États-Unis.
Les avocats restent confiants.
Je rappelle que l'avocate actuelle de Mumia Abou-Jamal, Judith Ritter, c'est elle qui l'a sortie du pouvoir de la mort.
L'Espagne se prépare au Brexit et va recruter 1700 fonctionnaires d'ici la fin du mois prochain. Ils seront affectés dans les aéroports, les ports, dans les services de contrôle sanitaire des importations et exportations et seront également chargés de l'aide aux quelques 300 000 résidents britanniques vivant en Espagne, dont de nombreux retraités. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabil Amel. Les grandes lignes météo de l'après-midi. Des vents violents sur 21 départements du nord-est du pays, de la pluie et la limite pluie-neige s'abaissera à 300 mètres dans les Vosges et le Jura, 600 mètres sur les Alpes. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille.